Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur La Route Inconnue, Christophe Jubien pour vous accueillir. La Route Inconnue, c'est le magazine de Radio Rancière entièrement dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. En seconde partie d'émission, vous retrouverez nos amis Jacques Morin, Louis Dubot et Georges Catalot, trois piliers de la revue Décharge qui est notre partenaire depuis plusieurs années. Nous en sommes très fiers, vous devez bien vous en douter. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un éditeur depuis le mois de septembre. J'essaie aussi d'ouvrir les colonnes, si j'ose dire, de La Route Inconnue à nos amis éditeurs, sans qui, évidemment, vous ne liriez jamais de poésie. C'est donc Michel Fievé qui est mon invité aujourd'hui, qui a créé les éditions de L'Aïe des ours en 2019. Et depuis, le succès ne s'est jamais démenti. Bonjour Michel.
Bonjour.
Voilà, alors je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Avant de parler de L'Aïe des ours, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur, sur l'enfant que vous avez été. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, du milieu où vous avez grandi, de votre famille, et puis aussi peut-être de la géographie, parce que le topo, le lieu, c'est très important en poésie.
Alors moi, je suis né dans le Nord, à Denain, cité minière. J'y ai vécu jusque l'âge de 5-6 ans. Et après, j'ai habité à Noyon en Picardie, mais nous revenions souvent, très très souvent dans le Nord. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon arrière-grand-mère paternelle était écafu, c'est-à-dire que dans les houillères du Nord. C'était une femme qui triait manuellement le charbon, donc c'était plutôt quelqu'un de pauvre. Et mon arrière-grand-père paternel, lui, je ne l'ai pas connu puisqu'il a été tué en 14. J'étais par contre très proche de mon grand-père paternel parce qu'il vivait avec nous. De son retour des camps de concentration, puisqu'il avait été déporté à Dachau en tant que résistant communiste. Et j'avais vraiment des liens, j'étais très très proche de ce grand-père et j'ai eu la chance comme ça de rencontrer ses amis résistants. Donc j'ai tout ce qui concerne les déportés, la résistance, mais j'ai eu cette chance de rencontrer ces gens-là et donc ça s'est imprégné dans ma chair, ce qui a donné d'ailleurs plus tard une fibre très militante et assez jeune.
Ouais.
Donc il m'a transmis cette fibre sociale. Et puis, vers l'adolescence, lui, il était décédé, mais vivant dans un milieu, on va dire un peu communiste, mais un peu stalinien quand même, je me suis très vite, intéressé aux idées libertaires et en réaction, et donc j'ai beaucoup fréquenté des lectures anarchistes, mais plus pour me soustraire finalement de ce carcan entre guillemets. Oui. Je me sentais vraiment à l'étroit.
Oui.
Et puis bien sûr après les choses évoluent. Mais cette fibre sociale, elle est toujours présente.
Ouais. Alors néanmoins, au sein du Parti communiste, il y avait beaucoup de poètes parmi les compagnons de route. Évidemment, il y a Aragon, mais il y a Guilvic, Éluard également l'a été. Il y avait beaucoup de poètes dans le sillage du Parti à l'époque.
Ben oui, mais justement, moi j'ai baigné en écoutant Jean Ferrat, et je pense que vraiment à l'origine, sans doute les Ferrat, Chantaragon, etc. Moi, j'écoutais en live, vraiment en boucle complètement ce disque notamment. Et je pense que cette musicalité, cette poésie d'Aragon, c'est vraiment imprégné, quoi. J'aimais beaucoup, moi, les chansons à texte, donc tout ce qui était Léo Ferré, etc. Mais c'est vrai que Brassens, j'ai beaucoup écouté Brassens, j'écoute toujours d'ailleurs. Mais Ferrat, oui, très jeune. Et puis après, effectivement, j'ai adoré Guy Vic, j'aime beaucoup m'y replonger. Même régulièrement, mais Aragon a fait vraiment partie du tout premier poète que j'ai lu. Ouais. Je me suis d'ailleurs acheté des œuvres intégrales à l'époque. Non, c'est de toute façon, il fallait pour moi que je m'en soustraie quelque part parce que c'était quand même un peu fermé pour moi. Et tant mieux parce que je pense que ça m'a permis d'avoir un autre regard aussi, sans oublier d'ailleurs cette fibre familiale de toute façon. Bon, du côté maternel, j'ai eu peu de contacts, donc voilà. Et puis on est arrivé en Picardie parce que mon père a travaillé chez Usinor à Denain, et puis après il a repris ses études et vers l'âge de 30 ans, donc j'étais à ma naissance à peu près d'ailleurs, et il a repris ses études et il est devenu ensuite enseignant lycée technique. Donc, et ma mère gardait des enfants et nous étions nous quatre enfants d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était le contexte un petit peu familial. Donc là, au niveau topographie, c'est vrai que j'ai à la fois le cœur un petit peu dans le nord parce que je me souviens très très bien des corons, je me souviens bien des terrils de cette terre très noire, etc., de ces gens aussi, de la pauvreté de ces gens. Moi, je pense à mon arrière-grand-mère, était tellement pauvre qu'elle avait, vers la fin de sa vie, elle avait perdu la tête et elle comptait ses boutons. Des boutons en croyant que c'était de l'argent, en disant qu'elle était riche, et je me souviens bien de ce regard un petit peu pauvre. C'était socialement vraiment compliqué. Voilà. Et puis moi, de toute façon, en Picardie, j'étais plutôt un enfant. Alors moi, j'étais plutôt un enfant solitaire. Moi, j'étais vraiment un enfant solitaire, j'aimais battre la campagne, et pour moi la nature, elle était une distraction suffisante.
Ouais.
Je m'étais vraiment inventé un univers. On habitait devant un petit bosquet qui était un lieu pour moi idyllique. Il y avait un énorme chêne majestueux qui grouillait de vie, et je me souviens, je ramassais des plumes de jais. Je surveillais les écureuils. Vraiment, j'étais cet enfant qui adorait et qui adore toujours la nature et tout ce qui touche aux oiseaux, les fleurs, etc. J'y suis vraiment très très sensible. Et puis, je pense que j'étais quelqu'un de très sensible, peut-être trop d'ailleurs, à mon idée, beaucoup trop. Et heureusement, le temps a un petit peu protégé tout ça, mais je pense que c'était important. Du côté école, par contre, je n'aimais pas plus que ça l'école. Je m'y suis beaucoup ennuyé et j'avais cette impression d'y être prisonnier. Je n'ai pas un souvenir très, très agréable. C'est vraiment plus tard, au lycée, que j'ai commencé à avoir goût aux études, à prendre. Moi, j'ai une formation scientifique, pas du tout littéraire. Donc c'est vraiment à cette période-là où j'ai commencé. Par exemple, j'ai lu très tard, très tardivement. Moi, j'ai commencé à réellement lire. J'avais 18-20 ans, quoi. Avant, bof, quoi. Je ne lisais pas plus que ça. Et d'ailleurs, les livres n'existaient
Ouais.
pas beaucoup à la maison. On avait, je me souviens, deux belles collections dans la bibliothèque de Zola et d'Hugo, mais c'était interdit d'y toucher, quoi. Donc, ado, je m'en souviens, j'en rageais. Ah oui, j'en rageais et je me disais que ces livres, ils étaient là pour la décoration. Et c'est seulement là, actuellement, je vois, j'en parle avec mon père en essayant de négocier si je pouvais les avoir, mais ils sont toujours là, quoi. Donc voilà, voilà. Donc le livre, c'est vrai
C'est
que
venu assez tard, ouais.
j'ai composé, oui, ma bibliothèque vraiment tardivement. Bon, à peu près, oui, en première terminale, j'ai commencé à avoir la chance de découvrir des beaux textes. Et puis, je me souviens aussi au tout début, quand j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, à chercher, à partir des chansons de Jean Ferrat, les recueils d'Aragon dans lesquels ces chansons étaient. Puis, au fur et à mesure, j'ai acheté Aragon, Éluard, Cadou, et puis la bibliothèque s'est agrandie comme ça. Pour la poésie, ça s'est agrandi comme ça. Après, j'étais vraiment aussi un inconditionnel d'Albert Camus. J'ai beaucoup lu Camus. Et puis André Dautel aussi.
Oui, bien sûr, qui n'était pas
Plus,
très loin
alors André.
géographiquement, oui.
Non, et puis plus tardivement, parce qu'André Dautel, je connaissais. Enfin, d'ailleurs, sa petite fille Valérie est une amie, et donc forcément, par porosité, on a parlé de son grand-père, et puis c'était une invitation forcément à aller voir, à aller lire. Et par chance, j'ai beaucoup aimé, donc
Alors, il y a une
j'attends
rencontre,
justement.
ouais.
Oui?
Il y a une rencontre qui est très importante dans votre vie, c'est celle de Jean Le Mauve. Alors évidemment, tous ceux qui lisent de la poésie connaissent Jean Le Mauve. Sa maison d'édition, L'Arbre, Jean Le Mauve, est très très connue, très très belle maison d'édition. Jean Le Mauve nous a quittés il y a quelques années. C'est une rencontre extrêmement importante pour vous.
Oui, Jean Le Mauve, c'était en 93. J'avais pris contact avec lui pour acheter des recueils, parce que j'avais lu beaucoup de livres de la collection Gallimard, la collection blanche, la poésie Gallimard, et puis je commençais à m'intéresser aux petits éditeurs, mais dans le sens pas péjoratif, dans temps de tout ce maillage qu'il y a de maisons d'édition, et la plus proche était celle de Jean, puisque c'était pas très loin de chez moi. Donc j'avais pris contact avec lui, et puis le rendez-vous fut pris rapidement d'ailleurs. Et puis la rencontre a été vraiment chaleureuse. Et finalement, on est devenus amis. On parlait de tas de choses, de jardins, d'arbres, d'oiseaux. Je retrouvais d'ailleurs son amour de la ruralité et aussi de l'actualité, de la poésie, bien entendu. Et finalement, régulièrement, je passais le voir à l'atelier pour l'aider le mercredi. C'était d'ailleurs une époque heureuse parce que je savais que j'avais un rendez-vous poétique régulier, et puis il y avait vraiment une belle complicité, quoi. Moi, je l'entends encore coudre et pendant que j'assemblais. Non, Jean, c'était vraiment quelqu'un que j'aimais beaucoup et je sais que c'était réciproque. Et puis le drame est arrivé un 3 juin 2001 où j'ai appris qu'il a eu une crise cardiaque, quoi. Donc je l'avais vu peu de temps avant. Tout allait bien, mais bon, c'est le genre d'accident qui arrive comme ça spontanément. Donc ça reste d'ailleurs que, alors forcément, il m'a transmis aussi ce goût de partager de la poésie, de publier. Ces livres étaient, comme vous l'avez dit, très beaux. Non, non, vraiment, d'ailleurs, quand j'ai créé la maison d'édition, j'ai beaucoup pensé à lui. J'ai la chance de garder des contacts avec Christine, sa compagne, avec qui on en a discuté. Et voilà, il est mort trop jeune, puisqu'il avait que 60 ans, hein, et c'est pas très très vieux, hein. On avait encore des tas de choses à vivre. Mais bon, la vie en a, le destin en a voulu autrement.
Et vous avez beaucoup appris sur sur la fabrication du livre, sur son mode de diffusion, sur ce que c'est qu'une ligne éditoriale, tout ça.
Oui, on discutait beaucoup. Alors Jean, il avait aussi son petit caractère, hein, donc il a fallu du temps avant qu'on discute vraiment de choses bien précises. Bon, après ça allait, quoi. Mais au début, évidemment, bon, d'abord moi, je ne voulais surtout pas qu'il croie que je le côtoie parce que j'avais envie d'être publié ou parce que j'écris un petit peu, mais je n'ai jamais été publié. Et j'avais peur de cela. Donc on en a parlé que très très tardivement de ce que je faisais. Mais sinon, oui, on discutait beaucoup. D'ailleurs, je pense que régulièrement comme ça, bah lui, je me souviens qu'il recevait environ un manuscrit, 300 manuscrits dans l'année, ça je m'en souviens bien. Donc ça fait quand même un par jour, hein. Donc et je me souviens, donc il était d'ailleurs il rencontrait la même difficulté puisqu'il faisait quoi, 5, 6, 7 livres. Donc tout de suite les proportions, je me doutais bien que ça allait être compliqué. Après, bon, la typographie, c'est une autre technique, hein. C'est quand même autre chose. Et puis bon, Jean, il vivait aussi beaucoup des animations, hein, pas malheureusement de la
De
vente des livres,
l'édition.
hein. Il faisait quand même beaucoup d'animations, et tant mieux. Et ça l'a permis, ça lui a permis de continuer son activité, quoi. Et alors, on parlait beaucoup d'auteurs. D'ailleurs, régulièrement, quand l'auteur venait chercher ses livres, il me prévenait, j'étais là pour en rencontrer. Non, c'était. Ben, là, ça me manque parce que j'aurais pu en discuter avec lui et voir un petit peu ce qu'il pensait, quoi. Mais voilà, non, c'est. En tout cas, c'est vrai que forcément, il m'avait laissé cette envie. Et alors moi, je pense pas que ça soit une vocation, ce que j'ai eu. Non, c'était juste le goût de passer de la poésie, quoi, d'être un passeur, en fait.
Alors en 2019, vous avez fondé L'Ail des ours. Alors, moi, la première question, forcément, pourquoi L'Ail des ours? Pourquoi ce nom?
Alors là, il est désolé. Mais quand on crée une maison d'édition, il faut forcément
Ah
un
oui.
nom. Donc, eh oui. Et moi, franchement, je ne savais pas comment j'allais l'appeler. Et donc, j'étais en recherche. Et puis, j'étais invité chez des amis, des gens que je vois très, très souvent. Et ils n'étaient d'ailleurs pas au courant que j'allais créer une maison d'édition. Et donc, ben, je suis invité un samedi soir. On est à l'apéritif. La copine, l'ami, me donne un pied d'ail des ours, mais pas du tout en relation avec la maison d'édition, puisqu'elle ne le savait pas. C'était juste parce que déjà j'aime beaucoup cuisiner, donc je cuisine avec de l'ail des ours aussi. Et par conséquent, elle m'avait dit, bah, tu le replanteras dans ton jardin, etc. Donc j'étais super content. On mange, et puis en fin de soirée, pardon, bah, je leur dis, au fait, je vais créer une maison d'édition, et puis il faudrait qu'on trouve un nom. Est-ce que vous avez des idées? Alors, c'est comme quand on choisit le prénom du bébé, on dit, oh non, mais oh, ben non, celui-là, on va l'appeler comme ça, tu te rends compte? Non, c'est pas bon, regarde un peu sur Google, mais oh, ben non, c'est connu déjà, ça. Bon. Puis c'est tout. Puis on ne trouve pas, on picole, mais on ne trouve pas. Donc, à un moment, il faut arrêter la goutte aussi. Hein, donc, et puis ça va être Non, il faut
C'est
aller
le
coucher.
genièvre, c'est ça chez vous?
Oui. Non, non, mais en plus, je suis quand même un bon vivant, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, finalement, bah, on se quitte. Il devait peut-être être 2 ou 2 heures du matin, je pense. Hein. Et là, elle me dit, au fait, n'oublie pas ton œil des ours. Et là, au moment où elle me dit ça, je ne sais pas pourquoi, je me dis, mais pourquoi pas? Et là, je me dis, mais oui, ça serait bien ça. Ça me correspond. C'est une plante qui est dans les bois. Bien sûr, ça me rappelle l'enfance, etc. Donc c'est tout. On rentre et dans la nuit, ça tournicote, c'est qu'à le dire. Et puis le lendemain matin, je me lève en disant à ma compagne, ça va s'appeler les éditions L'Œil des Ours, quoi. Et puis finalement, je ne regrette pas parce que c'est un nom que à la fois moi j'aime beaucoup, mais je me rends compte, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ah, c'est chouette, c'est un joli nom, ça se retient facilement, etc. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est devenu après un petit peu à la mode. On retrouve, moi, ou alors je faisais pas
Effectivement.
attention, je ne sais pas, mais effectivement, on voit des fromages à l'ail des ours, et j'avais pas l'impression qu'il y en avait avant. Alors, je dis pas que c'est, en tout cas, c'est pas les éditions L'Œil des ours qui ont provoqué tout ça, mais bon.
Enfin,
C'est un...
c'était une synchronicité, voilà. Oui.
Voilà. Et c'est, oui, c'est amusant. Donc voilà comment est né le nom.
Alors, la ligne éditoriale, est-ce qu'elle s'est rapidement imposée à vous? C'est-à-dire que vous avez créé L'Œil des ours pour publier telle ou telle poésie?
Non, en fait, ce qui s'est passé quand j'ai créé les éditions, bon, même si j'avais une idée de ce que c'est une maison d'édition, après, c'était de me dire, oui, mais alors, comment, statutairement, comment on le crée? On l'a créé. Et là, Romain Fustier, j'avais pris contact avec lui et il m'avait dit, bah, écoute, si tu veux, je t'envoie les statuts de contre-allée et puis tu y trouveras ton bonheur. Donc j'avais calqué un petit peu la structure sur celle de Contre-Allées. Donc c'est une association à but non lucratif, hein, donc je gagne pas un sou quand je fais des livres, et d'ailleurs c'était pas le but. Et puis alors pour choisir la ligne éditoriale, je n'en avais pas vraiment une au départ. Alors j'avais bien sûr comme c'est marqué sur le site des éditions, une poésie qui donne, qui, où la priorité est donnée au sens, à la sensation, mais bon, quand on a dit ça, après, il faut le construire, quoi. Finalement, j'ai envoyé la première année, en fait, à des auteurs que j'aimais beaucoup. Une demande de si vous voulez bien, en fait, une demande de manuscrit. Et comme, en fait, je le pense quand même depuis, parce qu'il faut pas oublier aussi que je travaillais beaucoup à la réalisation de petits livres dans ma classe. C'est-à-dire que dans ma classe, j'avais une activité où je fais écrire mes élèves quotidiennement. Et donc, ils font des petits livres, on en garde un dans la classe, on l'envoie aux auteurs. Ça fait qu'il y avait déjà une relation qui était construite avec les auteurs. Donc, c'est vrai que quand je l'ai envoyé à Adeline Baldacchino, Estelle Fenzi, Philippe Matty, eh bien, tout de suite, ça a été un oui, sans comment dire, ça a été oui tout de suite, quoi. Donc là, ça s'est installé comme ça. Puis après, je pense que de ce que je peux, de ce que je vois, les retours que j'ai, les livres plaisent beaucoup. Donc ça fait que j'ai eu sans problème après d'autres personnes qui ont commencé à m'envoyer leurs manuscrits. Et puis, la ligne éditoriale, justement, elle se construit à ce moment-là, quoi, pour moi. Le livre, pour moi, c'est une rencontre. Donc, je veux surtout pas une poésie qui explique le monde, mais qui le questionne. Voilà, j'essaye de construire cette ligne au fur et à mesure. D'ailleurs, si on prend les 6 premiers livres qui ont été publiés en 2020, et ben il y a au fur et à mesure des petites notes différentes. Quand on prend le livre d'Isabelle Alentour, par exemple, c'est différent de Néarbre. Et puis non non bah, enfin voilà comment ça s'est construit quoi tout doucement mais et ça continue à se construire ça continue moi je pense que je le vois bien en recevant les c'est d'ailleurs dans ce sens-là que je suis toujours quand je reçois un manuscrit quel thème il y a de quoi ça parle parce que j'ai besoin que ça me parle de quelque chose et que ça soit pas de la poésie uniquement pour faire beau, quoi, uniquement des mots qui s'entrechoquent et qui finalement après on se dit oui, mais alors qu'est-ce qui s'est dit, quoi. Voilà.
Il nous reste 5 petites minutes. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est très très jeune, cette maison d'édition, je l'ai dit, 2019. Donc ça fait 3 ans, mais vous avez un succès absolument extraordinaire et vous êtes presque victime de votre succès, Michel. Alors, succès d'une part parce que vous recevez énormément de manuscrits, un tous les 3 jours, vous me l'avez confirmé tout à l'heure, mais qu'en plus, vous vendez très bien. Et là, ça nous questionne sur le mode de diffusion de la poésie. Vous avez choisi le mode de l'abonnement. C'est ce qui finalement a contribué à votre succès.
Eh bien, oui, comment dire, quand j'ai créé la maison d'édition L'Œil des ours, il y avait une maison d'édition, les éditions La Porte, qui d'ailleurs ont stoppé l'année d'avant, et qui n'était pas loin de chez moi, et qui fonctionnait déjà comme ça par abonnement. Alors, c'était des livres beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, mais en tout cas, je m'étais dit, ça m'intéresse parce que je suis enseignant, je ne peux pas faire les salons facilement, etc. Et donc, par abonnement, ça peut faciliter les choses. Donc, et comme finalement, je crois que j'ai eu de la chance dans le sens où j'avais à la fois ce travail à l'école qui m'avait fait connaître sans le vouloir, puisque je ne savais pas du tout à l'époque que j'allais créer une maison d'édition. Faut pas oublier que la maison d'édition, quand j'ai pris la décision de la créer, c'était un soir sur Facebook où j'apprends justement que les éditions La Porte s'arrêtent. Et je mets juste en note, c'est pas loin de chez moi, il y a Romain Fussier qui dit qu'est-ce que t'attends pour la reprendre, il y a Isabelle Alentour qui me dit vas-y fonce, et puis que finalement le lendemain on se réveille, on se dit bah oui après tout pourquoi pas. Bon, et de là, ben pour revenir à votre question, pour la diffusion, j'ai pris par abonnement, donc là c'est la période où les gens s'abonnent. Entre disons mi-octobre et de toute façon c'est tout le long de l'année mais en tout cas le plus important c'est entre mi-octobre et mi-janvier où j'ai 80% des abonnés qui prennent l'abonnement et ou le réabonnement et puis après tout le long de l'année je continue à avoir des abonnés donc ça fait que là, je tourne autour de 400 abonnés à peu près. 400 abonnés, mais ce qui fait que quand je sors un livre, je vends 400 livres d'un coup. Et puis après, bien sûr, ça continue à se diffuser puisque les gens peuvent à la fois, comment dire, soit s'abonner et recevoir les 5 livres, soit acheter les livres individuellement. C'est beaucoup plus intéressant de prendre l'abonnement au niveau financier. Et voilà, et je pratique de la même façon avec la collection jeunesse là, que je viens de créer, Graines d'ours. C'est un abonnement où les enfants reçoivent, ou les écoles aussi, reçoivent 3 livres. Et un par trimestre, et c'est la même pratique. D'ailleurs, heureusement que j'ai fait par abonnement, parce que quand j'ai créé la maison d'édition, c'était en 2020, c'était au moment du confinement, c'est-à-dire peu de temps après, je crois que c'était 6 semaines après, enfin, on va dire 2 mois après, il y avait le confinement. Si c'était pas par abonnement, j'étais grillé complètement, là. J'étais tout de suite coulé, en fait. J'aurais pas pu vendre mes livres. Tandis que là, j'ai pu avoir tout de suite mon nombre d'abonnés et diffuser les livres normalement, quoi. Donc
Merci,
voilà,
merci Merci beaucoup Michel. On arrive au terme de cet entretien. Vous avez peut-être,
Oui.
avant que Cédric Merlant nous lise des extraits de trois livres publiés à l'Œil des ours, peut-être nous donner les coordonnées de notre maison d'édition, parce que vous l'avez dit, on est en pleine période de réabonnement ou d'abonnement. C'est le moment où jamais de donner votre adresse, peut-être mail ou votre site.
Alors, le site, il suffit de taper édition L'Œil des ours. Là, de toute façon, il n'y en a qu'un, donc c'est facile, on tombe tout de suite dessus. Après, vous allez dans l'onglet soit s'abonner à la collection Graines d'ours, soit s'abonner à la collection Grand d'ours. Vaut mieux faire ça d'un ordinateur parce que je sais que sur un téléphone portable, ça ne fonctionne pas. Et ben pour 2023, pour 30 euros, on reçoit 5 recueils, 5 jolis petits recueils. Et pour la collection Graines d'eau, jeunesse, on reçoit pour 25 euros, 3 petits recueils. Et puis, je les envoie régulièrement, à peu près tous les 2 mois. Donc, le premier en 2023, il sortira, on va dire, vers le 20 janvier, par là, quoi. Voilà. Mais toutes les coordonnées sont sur le site,
Sur le site.
avec les contacts, il n'y a aucun souci de ce côté-là.
Merci beaucoup,
Voilà,
Michel.
voilà.
On va
Eh
écouter un
bien,
peu de
merci.
musique et Cédric Merlant va nous lire des extraits de livres publiés par notre ami Michel Fievé.
Pour commencer, quelques extraits d'une prairie de poèmes de Roselyne Sibylle. Matin de mars, l'herbe est si drue que l'air en est vert. J'en prends un peu entre mes mains et le dépose en moi. Le premier soleil cueille les corolles des boutons d'or pointillés au-dessus de la prairie, écume leur lumière, offre au ciel l'évidence. Je les butine avec mes yeux. Bulles des graines de pissenlit dans leur silence. Les petites pleines lunes méditent en attendant le vent. Les boutons d'or, granulés de lumière, saupoudrés sur le verre, l'ombre de leurs tiges violette presque. Pour les raconter, il me faudrait inventer un autre alphabet. Penchés vers les pâquerettes, leur simplicité dans ce monde en furie, leur innocence, je reprends souffle. Un oiseau s'applique à répéter sa phrase. Brume des boutons d'or, tous ensemble épanouis. Presque oublié le verre sous l'étole à peine déposée. Des choucas croassent comme s'il s'agissait de rayer la perfection. Désormais, les graminées dominent. Chaque brin écrit dans la brise son poème de lumière. Tapis au fond de l'épaisseur du pré, les pompons roses du trèfle comme un secret. La prairie, tôt matin, est une mousse de lumière qui salue, suspendue. Vivante en luminure, virevolte la virtuosité des rossignols. Une goutte de rosée scintille. Entre mes pieds et l'herbe, les mots, stupéfaits. Vivant microscopique peuple de tout, ont disparu dans la rosée. La prairie se transforme plus vite que le poème, matière, monde, mouvante. La nature va son rythme, trop immense. Les graines de pissenlit se sont disséminées et les fines massues des tiges nues, l'air perdu, se balancent inutiles. Les pieds posés sur les nuages, nuages végétal qui serait la prairie, le regard enroulé dans les turbulences, lentes, lumineuses, l'infini glisse sur la saison. Un tapis de fleurs modestes, éclatantes, incontables, leurs somptueux détails, leur brillance, leur complexité devient, de loin, Seulement des points, des idées de fleurs, juste des couleurs, toujours éclairant le fond vert du pré. Pour évoquer les ondes blondes du vent doux sur la prairie, il me faudrait décoiffer tous les mots jusqu'à leur musique. À présent, des extraits d'Étreintes mystérieuses de Philippe Matty. Ce peut être la nuit, le jour, l'une ou l'autre saison, je vais, m'efforçant d'être plus attentif à la clarté qu'à l'obscur, cherchant au cœur de ce qui vit, frissonne ou se tait, les pas d'un chemin ou respirer un souffle de paix. L'aurore frissonne à l'horizon des champs, parmi quelques nuages appelés à disparaître dans un jour de clarté. Malgré les ronces, les ombres, les cris, cendres d'hier et de demain, rivés dans l'axe des vents, je veux, comme ces nuages, évaporer l'eau de mes peines, goûter à ce jour qui caresse la terre, m'abandonner aux doigts de la lumière, laisser germer en moi les céréales du présent, pour offrir peut-être un peu de farine aux lèvres des affamés. J'observe les oiseaux, même s'ils ne bougent pas de leurs branches, même si leurs couleurs sont ternes, même s'ils ne chantent pas, ils m'emmènent très loin. Je m'élève au-dedans de moi-même. Dans la trouée d'un temps qui peine à passer, un infini se profile, conçoit l'obscur, l'étang plus loin que le jour. Ombre frêle, buée sur un regard, comme lorsque la fatigue offre au corps que l'on caresse le chemin d'une chaleur ou s'abriter. Vieil escalier, fidèle comme un pont. Là-haut, une ruine. En bas, la terre où grouille la vie de l'eau, des plantes et des bêtes. Je suis assis à mi-parcours, arrêté sur une marche, ne sachant plus quelle rive est en haut, quelle rive est en bas, attentif au bruit du temps qui file sous les arches. Soleil d'octobre sur les dernières pommes. Le chien joue dans l'herbe froide. Quelque chose grandit en nous que nous ignorons. Invisible étoile sur la carte d'un ciel où s'impriment nos pas. Dans nos bouches, paroles errantes, réchauffées à la lumière des mots les plus quotidiens, pour s'avancer plus loin dans le jour comme on s'avance dans l'amour. Ce verger, carré d'herbe, ou serré contre la brume, je goûte à toutes les branches du présent. Une voix dans le silence. Chacune des syllabes frémit comme feuille en automne, bercée par une brise légère. On ferme les yeux pour écouter ce qui se met à chanter plus loin que cette voix, peut-être un oiseau clair, posé sur une branche basse, prêt à s'envoler. Une voix dans le silence. La lecture terminée, on referme les pages, on se lève, on avance, baigné de solitude, comme si on traversait un parc en foulant des mots. Souvenir déjà, feuilles mortes sous les pas. Lumière rasante des beaux jours de novembre, douce et discrète sur les pierres des murs, non pour s'y reposer, s'y réchauffer, mais pour souligner leur volume, écouter leur histoire. Lumière de novembre que l'écriture tente souvent, en vain, d'imiter. Dévoré de trop de feu. Feu latent sur les feuilles de l'automne. On ne sait pas encore ce qui se prépare, la brûlure du gel ou les flammes vives des couleurs. Indifférents, les bourgeons sont clos, réfugiés dans leurs rêves d'avenir. Et pour terminer, des extraits de Bouger les lignes de Florence Saint-Roch. Pluie et brume ferment la vue. On n'entend plus rien de ce qui nous appelait ici. La fatigue nous dissout, creuse l'écart entre le monde et nous. On s'en prend au ciel, vite qu'il nous envoie ses nuages blancs. Cohorte bouillonnante, leurs bords frangés de lumière, nos seuls éblouissements. Le vent n'en finit pas, parle tout seul, phrases et motifs, tenaces, développement. À l'aplomb, la mer et ses fastes, moissons vert turquoise, et mots brillants. L'Élysée évince le temps. En soudain piqué, on dérange l'intimité des vagues. Festins argentés, rumeurs de sel, ivresse nouvelle. Temps couvert ou éclairci, on est de toutes les averses, de tous les courants d'air. Rien ne nous échappe du cycle des saisons, des œuvres de la terre. Avec quelle attention on regarde ce pays dont on n'est pas. Dans les yeux de certains, l'absence d'étonnement. On fait partie du paysage, notre plus grande chance, notre plus grand dommage. Et pourtant, nos trésors, le secret des grands arbres, le parfum des écorces, la nostalgie du couchant. L'air chaud arrive, muettement emplit l'espace. Nos ailes s'assouplissent, on s'équilibre, autrement. Marin ou sirocco sur le dos du désert, à perte de vue, les dunes ondoyantes. Chemin pierreux, route goudronnée, rien qui garde nos traces. Nos noms inscrits dans quelles archives, nos visages dans quelle mémoire. On voudrait récuser pour toujours les ombres et les craintes, provoquer des vertiges de soleil, des noces fleuries, des rires éclatants. Les courants nous changent, nous répètent, millénaires migrations. On se pose sur l'air, tout ouvert à l'absence de frontières, on évolue en connaissance profonde. Notre vol est rien d'autre, un immense embrassement. De relais en délai, on fait tout le chemin possible. On s'attache, on s'arrache, on avance, on espère. Persistance des souffles, de toujours à toujours. Forcément partant, on tient la route. À chacun de nos pas, on traverse l'énigme. On se tient à cette certitude qu'au bout, il y a.
Un grand merci à Cédric Merlan pour cette lecture de trois ouvrages publiés par notre ami Michel Fievé des éditions L'Ail des Ours. On rejoint sans plus tarder Jacques Morin pour sa revue des revues audio mensuelles.
Revue du mois audio numéro 52, cette fois-ci donc c'est WAM, W-A-M, point d'exclamation, épisode 8. La revue des éditions du Contentieux et de Robert Roman trace sa route. Celui-ci termine son intro par ce tercet. La lune est un rêve qui berce la jument de la nuit. Mais la majeure partie du numéro suit une thématique à laquelle chaque auteur ne déroge pas, à savoir écrire un dernier poème comme si nous allions mourir. En d'autres termes, une épitaphe. Ou encore un map, un manifeste artistique posthume. C'est Mylène Tournier qui ouvre. Une tombe, mais comme un paillasson. Hélène Miguet commence sa page ainsi. Qui ne gît pas ? Et conclut, SVP, pas de fleurs, seulement des applaudissements. Julien Boutreux affiche ses dates. 1976-2021. Flora de la Lande conseille, mais surtout, dès que possible, n'oublions pas de revenir humble au niveau de la mer. Abderrahmane Benoja parle carrément de testament. Amandine Goutefard de Rousseau joue sur son nom. Pascal Ulrich écrit « Je suis mort le 23 février 1964 », date de sa naissance, et ses dates finales indiquent 1964-2009. Bruno Sourdin répète en refrain « Laissez le bon temps rouler ». Roger Lahut donne 4 haïkus épitaphes bien ratés, tout réussi comme ce dernier. Par souci de cohérence, a bien raté son épitaphe comme son œuvre poétique. Éric Moutier laisse derrière lui 3 occasionnels lecteurs comme son œuvre qui, malgré leur sincère déception, s'en remettront. Christophe Petchanas, je le rassure, j'ai bien lu ton message qui m'a permis de prendre de tes nouvelles depuis le temps. Didier Trumeau fait dans l'allitération l'alali de l'aléa. Mario Urbanet reprend d'une tombe étrusque « Je n'étais pas, j'ai été, je ne suis plus ». Fabrice Marzuolo dessine un autoportrait congelé alors que Morgane Riette dresse un abrégé. Patrice Maltaverne, le cœur à l'ouvrage du néant. Denis Hamel liste tout ce qu'il fut. Dominique Sorante passe une annonce. Recherche caveau plus large, esprit loft. Anne Barbus, dans un jardin mondialisé, revégétalisé, racines, rhizomes, roses et résilience. Marie-Jo Lemaire signe anonyme, sans oublier les illustrations de Walter Jaguenaud. Ensuite, Patrick Oustric illustre deux belles photos de Robert Roman. Géraldine Serbourdin, dans son numéro noir, rend hommage à Soulages. Un peu de Mellart avec Pascal Ulrich. Si la subversion s'est allée contre l'ordre établi, alors les enveloppes sont à rien subversives. Deux proses avec Robert Roman et Yvan de Montbrison. Opinion signe l'ignoble. Pour clore, Éric de Jaguerre, les critiques de Didier Trumeau, Antoine Doury, Matt Malen. 10 euros le numéro, le port est gratuit, c'est à noter. Robert Roman, 7 rue des Gardénias, 31100 Toulouse. À la prochaine fois.
Toronto par Ben Harper. Nous allons continuer et clore cette édition de La Route Inconnue avec notre ami poète Georges Catalot. Il se trouve que Georges Catalot est aussi l'un des piliers de la Revue des Charges avec sa chronique Phare dans la nuit. Et depuis le mois de septembre, il a accepté de prendre en charge une nouvelle rubrique qu'il a créée lui-même d'ailleurs, Poète absent et poète présent. Je vous laisse avec Georges Catalot. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve bien évidemment dans une quinzaine sur La Route Inconnue.
Bonjour à tout le monde. Poète absent et poète présent, numéro 14 de la série. On va parler aujourd'hui de Gaston Puel et de Josette Ségura. En ouverture, en fermeture, une citation de Gaston Puel, justement. La poésie ne poursuit aucune finalité, ne dicte aucune loi, ne promet aucun salut. Gaston Puel, il était né en 1924 et décédé il y a bientôt 10 ans, en 2013. Personnellement, je ne connais pas de poète du XXe siècle qui ait eu le courage, dès leur début littéraire, à moins de 30 ans, d'avoir su dire non à Gaston Gallimard et à André Breton. Il fallait être doté d'un sacré tempérament et d'un fort caractère pour oser cela. C'est pourtant ce que fit Gaston Puel autour des années 50. Bien ancré dans son terroir occitan, il creusa son sillon poétique avec rigueur et passion, loin des modes et des pratiques parisiennes. Il savait dénoncer parfois violemment, ce qui lui valut d'être ostracisé, mais il n'en avait cure. La voie qu'il s'était tracée était celle d'un poète indépendant, libertaire et courageux. Sa poésie, riche d'images et de références, ne ressemble à aucune autre. Elle est à la fois réaliste et lyrique, tendre et violente. Ses premiers livres, de 1950 à 1960, parurent chez Segers, chez José Corti et chez Guy Lévis-Mano. Et ils furent illustrés par de grands artistes du XXe siècle tels que Max Ernst, Hans Arp, Raoul Lubach ou Hans Bellmer, excusez du peu, et tant d'autres. Il y a également Vieira da Silva, etc. Ce qui aurait pu griser n'importe qui d'autre ne le troubla pas, bien au contraire, puisqu'il créa une maison d'édition artisanale qu'il intitula La Fenêtre Ardente, en référence à René Char, qu'il connaissait et qu'il édita également à La Fenêtre Ardente. Dans son atelier Tarnay, il composa sur sa presse à bras des livres d'une facture irréprochable. Au fil des ans, ses ouvrages sont hélas devenus introuvables, comme ses propres livres à lui, exception faite pour 5 recueils parus aux éditions de l'arrière-pays, que nous allons évoquer maintenant avec Josette Segura, l'une des deux responsables de cette enseigne. Alors, Josette Segura est née en 1950 et après quelques recueils parus chez Chambellan dans les années 80-90, elle reçut la reconnaissance de ses aînés grâce au prix Voronka, obtenu en 1991, et au prix Froissart, obtenu en 1994. Ces deux prix étaient décernés à des manuscrits anonymés, ce qui en faisait leur valeur. À partir de ce tremplin, l'œuvre de Josette Segura va se déployer avec de discrets recueils parus chez des éditeurs tels que Voix d'encre d'Alain Blanc, L'arbre de Jean Lemauve, L'Atlantique de Sylvain Arabeau, Edith Inter de Roger Dalion ou plus récemment Il adore de Claire Garnier. En lisant Josette Segura, le lecteur se plaît à retrouver une atmosphère intimiste et rassurante, traduite par une voix lourde de sens mais jamais pesante. Cette voix sait nous entraîner à la découverte de paysages et de lieux simples qui soudain se trouvent habités par une invisible présence. Elle sait aussi évoquer les épreuves subies, sans que cela ne sombre dans la banale déploration. Ses poèmes se déploient toujours avec élégance et délicatesse. Et même si elle a une grande culture et une parfaite connaissance de ce qui s'écrit ici ou là, elle ne se laisse jamais happer par les modes et les époques, un peu à la manière de Gaston Puel, son mentor. Bien plus qu'une influence, cette collaboration a été la conséquence d'une riche et longue amitié, ainsi que d'une confiance réciproque. Avec Éric Dazan, Josette Segura dirigea les éditions de l'arrière-pays de 1992 à 2017. Elle y publia plus de 70 ouvrages, dont 8 de Gaston Puel. Parmi eux, 5 sont encore disponibles. On peut aller voir le site sur Internet des éditions de l'arrière-pays. Voilà, pour conclure cette chronique, encore une citation de Gaston Puel. Poésie, la vie palpite dans l'immobilité des choses. Poésie, elle berce, elle endort le temps, elle tire l'âme vers l'ailleurs. Thank you.